Alors, petite présentation audio, comme d'habitude, de la course du week-end. Alors, la course du week-end, elle aura lieu vendredi matin. C'est la petite spécificité du 90 km du Mont-Blanc. C'est que c'est en début de semaine, donc départ assez tôt, hein, 4 h du mat. Cette année, ils ont un peu cassé les couilles à tout le monde à se décaler d'une semaine, parce que bon, bah, déjà, pour pas mal de coureurs, c'était pas possible de décaler ses congés, ses vacances, ceci, cela. Il se décale sur le week-end de Verbier-Saint-Bernard, sur le week-end de la Montagnarde, donc leur pique des bénévoles sans se poser la question si ça va manquer à quelqu'un ou pas. Bon, et une manière de faire qui était relativement vilaine. Ils l'ont fait quand même, petit passage en force. Bon, c'est le club des sports de Chamonix, c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude qu'on leur dise non. Et donc là, ils sont un peu assis sur les autres. Et dommage, je trouve, mais bon, peut-être n'avait-il pas le choix, je connais pas spécialement cette organisation. Départ à 4 h donc ce vendredi, écoute, ouais, le parcours est un peu modifié parce qu'avec ces conneries de coronavirus, on peut pas passer en Suisse. Voilà, il faut rester avec les arbres français, les arbres suisses, c'est compliqué, donc bon, ça me dépasse totalement. Et du coup, ils ont modifié un peu le parcours, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, quand on redescendait des chalets de la Loria vers le kilomètre 40, au lieu de remonter sur Émosson, le barrage d'Émosson, eh bien, on va directement enquiller à Valorcine, un peu de vallée, c'est très léger, ça remonte même légèrement d'ailleurs. Et de Valorcine, en fait, on va faire l'aiguille des Pauzettes, version marathon du Mont-Blanc, j'ai envie de dire, pour redescendre au Tour. Et à ce moment-là, au niveau du Tour, on reprendra entre guillemets le parcours normal. Simplement, étant donné qu'on n'a pas fait la montée à Émosson, ils vont ajouter une montée, donc on passe à Argentière, etc. Et là, au lieu de continuer un petit peu tout le plat qui faisait le sel du 90 km du Mont-Blanc, eh ben, on va prendre sur notre gauche et on va monter à Plangeran. Donc ça, c'est le parcours de l'Argentrail. Course dont je serai speaker le 18 juillet. Et je vous invite vraiment à vous rendre sur cette course si vous en avez l'occasion. Parce que franchement, ça permet de voir un autre visage de la vallée de Chamonix. Enfin, surtout à Argentière, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus sympa. C'est un poil plus haut. Et vraiment, vous avez l'ambiance course de village, l'ambiance course de clocher, alors que vous êtes proche de Cham. Voilà, pour ceux qui aiment pas trop les gros événements, mais qui veulent quand même profiter de la beauté de la vallée, l'Argentrail, vraiment, c'est topissime. En plus, eux, ils sont excellents, hein. Si tu veux, ils me mettent au micro, puis ils mettent un DJ aussi, donc bon, en général, on passe une bonne journée. Voilà donc pour les modifications de parcours. Sinon, il y a 7 ravitaillements sur le parcours qui sont plus ou moins accessibles. Par exemple, plan Prat, montant vert et plan l'aiguille. Si votre ravitailleur n'est pas un bon coureur à pied, vous l'avez dans l'os. Donc moi, je serai ravitaillé à peu près partout, sauf à plan l'aiguille, parce qu'il y a assez peu d'intérêt, et j'ai que Aubin pour me ravitailler, enfin, j'ai pas besoin de plus. Et une fois qu'il sera monté à Montanvert, il va pas aller à plan l'aiguille. Il n'y a pas trop d'intérêt, si tu veux, derrière, il y a 7 bornes de descente, un peu moins même. Donc voilà, si t'as soif, tu t'arrêtes 2 minutes à plan l'aiguille, puis au pire des cas, tu finis. Voilà, il reste que la descente. Si t'as fait un bon ravito à Montanvert derrière, c'est pas très important. Donc je serai ravitaillé partout. Et Montanvert, ouais. Au niveau du matériel obligatoire, écoute, là, c'est pas trop exigeant comme course. Voilà, on te demande le gobelet. Bon, ça c'est normal, plus personne ne les fournit au ravito. On te demande 1 litre d'eau. Là, oui, je vais pas y discuter, hein, surtout qu'en 2019, j'ai fait une sacrée déshydratation. On te demande une lampe frontale, c'est normal, parce qu'à 4 h du matin, il fait nuit. On te demande un téléphone portable, là aussi, c'est classique. La couverture de survie, c'est un classique. Le sifflet, c'est un classique. Bon, après, ces petits machins accrochés au sac, ça va pas chercher loin. Une veste étanche et imperméable au minimum, blablabla. Donc là, on s'en fout totalement. Vous prenez une veste qui a l'air étanche et le bénévole est content. un vêtement manche longue, donc là c'est pas précisé, donc total enculade de ma part, je prends le compressport très très fin qui doit faire 45 grammes. Autant vous dire, quand je le sors du sac, c'est comme si je faisais un dos d'honneur au règlement en fait. Ah, petit bonus Covid, on vous demande le masque, hein, bien sûr, pour protéger la forêt. Protégeons la forêt, portons le masque en extérieur. Et on vous demande un bol et une cuillère. Bon, voilà, j'ai chopé une cuillère plastique qui traînait dans un placard. Au niveau du bol, qu'est-ce que j'ai fait pour le bol? Ah, bah, j'ai pris un deuxième gobelet pliable et je vais le définir comme un bol. Puisqu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se définissent comme non-binaires. Eh ben, moi, je définis mon gobelet pliable comme bol. Voilà. Et puis, je me ferai un plaisir d'argumenter pendant des heures avec le bénévole, étant donné que j'en ai rien à foutre du classement, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours l'œil droit qui est un peu flou. Alors, le chirurgien m'a donné des exercices pour que le cerveau s'habitue, en fait, et rétablisse de lui-même la vision, puisque bah, selon lui, en fait, la chirurgie s'était bien passée. Simplement, il faut que je fasse des exercices maintenant pour retrouver la vision. J'ai trouvé un ami qui est dans le même, enfin, qui a été dans le même cas que moi. Donc, bah, écoute, voilà, finalement, c'est pas si... Enfin, si, c'est rare, mais... Au moins, j'ai trouvé quelqu'un à qui c'était déjà arrivé. Et alors, bah, vendredi, ce sera pas rétabli, mais avec ces exercices, c'est vrai que je me sens déjà un petit peu mieux. Donc, je vais faire la course. Alors, sur les montées, sur les plats, a priori, ça devrait bien se passer. Puisque... les sensations du Covid ont l'air d'être derrière moi. Quoique, lundi soir, j'avais des petits soucis cardio, tu vois, des petites anomalies que j'avais notées. Mais bon. Et donc, oui, par contre, pour le descendre, bah écoute, je verrai pas grand-chose encore. Donc, mollo. N'étant pas de base un grand descendeur, bah, je vais perdre encore plus de temps. Donc voilà, vraiment, l'aspect compétition est un peu mis de côté. On va dire que je vais essayer d'arriver le moins tard possible. Voilà. Plutôt que le plus tôt possible. Donc, argumenter au niveau de la définition d'un bol auprès d'un bénévole en lui demandant de s'appuyer sur le Larousse va vraiment beaucoup me faire rire si c'est le cas. Alors ensuite, l'organisation, copiant l'UTMB, demande un kit de survie, en gros, si la météo est mauvaise, avec un bonnet, effectivement, ça me paraît essentiel s'il fait froid. Et donc là, ben, je vais me munir du petit bonnet Broubeck, voilà, made in Europe, estampillé du Carmi, puisque ce sont les plus légers du marché. Et il demande un... Oh putain, il demande un collant aussi. Bah ouais, voilà, alors j'avais un collant Adidas qui devait faire une centaine de grammes, une espèce de truc... Alors si vraiment il fait froid, je prends le Broubeck qui lui est très confort, bien chaud, enfin c'est ce que je mets tout l'hiver... Mais là, j'ai vu la météo, il va faire assez beau et tout, donc le collant, j'ai envie de te dire, zubi. Au niveau des gants, bah, l'alliance ultime étant les petits gants en laine de Mérinos, je crois, de Broubeck. Et tu mets les espèces de capotes plastiques Salomon Bonatti par-dessus. Là, tu as et chaud et tu es protégé pardon, de la pluie. Bon, il va pas pleuvoir hein, vendredi, donc c'est bon. La bande adhésive, ah oui, tiens, ça c'est chiant. Si je me fais mal, tu vois, je me suis jamais posé de bande adhésive sur un quelconque bobo, mais voilà, si je me fracture le genou, eh bien j'improviserai et je me poserai moi-même une bande adhésive. Ah oui, bien sûr. Donc, allez, venons-en au fait. Ce départ à 4h de Chamonix. Enfin, juste à côté, on va pas non plus partir de Chamonix-Centre, puisque le virus est présent dans Chamonix-Centre, mais... Un kilomètre à côté, sur l'aire des parapentes, il n'y a pas de virus. C'est pour ça qu'on va partir de l'aire des parapentes. Non, 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 ne dites pas que ces mesures sont débiles. Vous n'êtes pas un médecin, vous devez donc fermer votre gueule et écouter ceux qui savent. Vous ne savez pas, donc vous obéissez, vous vous taisez, et surtout, vous n'omettez pas d'avis contraire à celui qu'on vous donne. Voilà. Alors, départ à 4h, bon, ça se casse bien les couilles aussi. Ouais, bon, je vais déposer un peu tout ce qui me fait chier. Consommer, ouais, petite demi-baou, ça c'est pour éviter le stress, pour partir, voilà, les réserves pleines, etc. Peu de ceinture, et puis ma petite capsule de caféine pour me réveiller. Ensuite, je pars avec deux flasques, bien chargées. Hein. Tout le long de la course, j'aurai 40 grammes de malto dans les flasques, 1 gramme de BCA dans chaque flasque, et ouais, même 2 grammes. Eh merde, j'ai pas modifié le document, c'est plutôt 2 grammes qu'on va prendre. Je vais le modifier, et ouais, je mets un tiers, on va dire, visuellement, je mets un tiers de ceinture, donc à peu près 200 ml, un poil moins. Puis le reste, bien sûr, c'est de l'eau. Donc ça, c'est ce que je vais boire toute la course. Là, je prends deux flasques parce que en 2019, j'avais mis 1h30 pour aller au Brévent et encore un petit quart d'heure pour descendre à Planprat, donc quasiment 2 heures d'effort. Voilà, deux flasques seront bues, c'est très très bien, c'est pas abusif. Et ça me semble être un minimum, donc il faudra vraiment à Planprat que j'ai fini mes deux flasques et Aubin sera là pour me donner le reste. Pendant la montée, je vais manger une petite purée baou, ça coule tout seul, et je vais finir ma demi-baou sucrée. Je pense que je vais prendre le petit goût chocolat qui va bien. Tiens, ça fait 12 bornes pour aller à Planprat. Et 1500 mètres. Non, ça fait 14 bornes. 14 bornes et 1500 mètres. Ok. Planprat. Ouais, alors Seb m'a mis de consommer de l'eau sur les ravitaux. Voilà, là, 100 ml de ceinture, sachant qu'Aubin monte à Planprat à pied, je vais pas en plus lui faire porter une bouteille de ceinture et mon petit gobelet, donc là, je vais zapper ça. J'espère que Seb n'écoutera pas ce podcast, sinon il va hurler. Voilà, je repars avec ma flasque, une seule flasque, pour aller au Buet. Bah oui, parce que le Buet, je vais y arriver assez vite, hein, en 1 heure et des bananes, j'y serai. Donc une flasque, ça suffit, voilà, plutôt que d'en prendre deux. Je vais manger une petite baou sur la section et une purée. Ça va assez vite. Là, c'est un peu la section que je vais... j'ai un peu peur de cette section, de Planprat au Buet, puisque le chemin est truffé de cailloux pour aller à la Flégère, pour monter à Tête-au-Vent. La descente de Tête-au-Vent sur le Buet, c'est une horreur, c'est très technique. Donc là, je vais perdre énormément de temps. Il est très possible que je passe avec le groupe de tête à Planprat, et que je sois lâché, que je prenne même 10 minutes, à mon avis, au Buet. Voilà, ce serait une course rondement menée si elle se passait comme ça. Au Buet, mais peut-être que je le ferai à Planprat, je vais jeter ma frontale dans la forêt, car l'écologie, j'en ai rien à branler. Ah non, je la donnerai au bain. Là, je vais boire un peu de ceinture, parce que j'aurai soif à 7h du mat. Et je repars avec deux flasques, je vais aussi manger une baou sucrée, une baou salée. Bon, il se branle un peu hein, quand même quand il fait les plans. Et deux purées, ouais, parce que là, ça va être assez tonique. En fait, ça court pas mal pour monter à la Loria, et c'est vraiment la fin de la montée où on va faire de la marche bâton, mais je pense que la première moitié sera effectuée en courant. Chalet de la Loria, on descend, là ça va, le single est pas très technique, il n'y a pas trop de cailloux dessus, donc je pense que je vais me démerder, quoi. Et ensuite, un petit morceau de plat pour relancer, pour arriver à Valorcine, je vais repartir avec deux flasques, donc là on est vraiment à la mi-course, à Valorcine. Autant sur le plan du dénive que sur le plan des kilomètres. Donc c'est vraiment le moment de se poser. Voilà, normalement je vais y arriver à peu près 5 heures de course. Donc si j'y arrive après 5h15, 5h20, c'est pas très très grave non plus. Et on repart avec deux flasques, une baou et deux purées. Parce que bah, y a un petit morceau pour aller autour. Surtout il y a quasiment un cavé de Valorcine à... Merde, à l'aiguille des Posettes, il y a quasiment un cavé. Là où c'est vicieux, c'est que le raid se fait au début, donc on va tout de suite repartir du ravito avec une petite marche bâton. Et en fait, ce qui serait bien, mais bon, là, voilà, il va falloir être capable de le faire, hein, après 45 bornes de course et plus de presque 6 heures, je pense, c'est sur le sommet de se remettre à courir, parce qu'on finit par la piste de ski, et ensuite du col des Posettes à l'aiguille des Posettes, il y a 200 ou 300 dénives, et c'est pas très raide. Et là, ça court normalement. Enfin... je pense que la tête de course va courir pour connaître le terrain. Ensuite, la redescente sur le tour. Alors là, bah, deuxième gros problème pour moi sur la course, puisqu'elle est très technique, cette descente des Posettes. Vous la verrez sur le live dimanche pour le marathon du Mont Blanc, puisque eux vont monter par là. C'est un peu la modif qu'ils ont cette année. Très très technique, des marches, des cailloux, vraiment là. Il y a 1000 mètres de dénivelé négatif à faire et là je vais perdre énormément de temps. Voilà, j'envisage carrément de perdre un quart d'heure sur la tête de course. Arrivé au tour, là les ravitaux vont commencer à se resserrer. Donc je ne repars qu'avec une flasque. Je prends le temps de boire un peu de ceinture sur le ravito. Alors la ceinture, je l'ai dégazée. Je l'ai dégazéifiée. Ça fait 3 jours qu'elle est posée au garage avec le bouchon ouvert. Donc ça dégaze, ça dégaze, ça dégaze. Un peu comme quand tu fais des pets après une grosse raclette. Et du coup, voilà, là, ça va se boire tout seul. C'est vrai que, faites attention, même moi qui n'ai pas trop l'estomac sensible, ça me le fait un petit peu. C'est vrai que quand on boit de la ceinture en ouvrant simplement le bouchon pour la première fois, c'est très très gazeux. Ça gonfle un peu le ventre. Ça, voilà, donc en plus, en course à pied, c'est franchement, ça peut être franchement un peu chiant. Là, ça va passer comme de l'eau. Voilà, nickel. Une baou salée et deux petites purées et ce sera reparti. Alors, là autour, on va reprendre un chemin relativement roulant et il y aura la petite modif avec cette montée à plongeon. Alors, je vous fournis aussi le PDF du parcours. Vous l'avez vu, cette espèce d'aiguille là, c'est plongeon. Je sais pas trop comment ils ont tracé leur truc, mais normalement, c'est pas très très raide. Alors, nous, évidemment, on sera très fatigués hein, après plus de 55 bornes de course. Mais à large entrail. Le top 10 passe en courant, plongeon. Plongeon, on redescend immédiatement après être monté, donc là, c'est vraiment uniquement pour faire du dénive, même si c'est joli hein, au sommet. Les bois. Passage au bois, donc là, c'est la fin de course, c'est le moment où il y aura tous les retournements de situation dont on aura commencé à avoir les prémices autour, au niveau des bois, vous attaquez la dernière montée, montant vert, et on va même plus haut que montant vert cette année, on va au signal, oh, je ne sais pas trop ce que c'est, pour redescendre sur le chemin qui va nous faire remonter à plan l'aiguille. Donc, le final est un peu plus corsé que les autres années, puisqu'on ajoute, je crois, 300 de dénive, et cette montée, un montant vert qui est fabuleuse, près du glacier, enfin, près de la terre, puisque le glacier n'existe plus, il remonte d'année en année, et bien sûr il va disparaître, puisque l'être humain n'en a que foutre de la nature, sauf les menteurs. Vous ne le verrez pas, hein. Si vous pensiez voir le glacier, enfin la mer de glace, ça n'existe plus, hein. ça relève du mythe. Mais la montée est sympa, alors la montée est très technique, bon, c'est pas un problème, parce que là elle s'effectue en marchant, hein, pour je pense tout le monde, même un Thévenard en forme, il a peut-être couru sur les premiers mètres de dénivelé qui sont pas très très raides, les 200 ou 300 premiers mètres de dénivelé, mais alors après, une fois que vous passez ce... Il y a un espèce de petit bar chelou à 1600 mètres d'altitude, après c'est très très raide et très caillouteux. Donc il y a montant vert, Aubin va monter à pied, pour me ravitailler au sommet, me passer la flasque qui va me... Non, attends, de montant vert, il me faut deux flasques, oui. La petite baou, que ce soit la purée ou la... Merde, la barre. Voilà, j'alterne. En fait, je prends systématiquement une barre, une purée, une barre, une purée, une barre, une purée. La purée, il n'y a pas beaucoup de calories à l'intérieur, mais ça glisse tout seul. Et le goût est vraiment très bon, très prononcé. Ça donne beaucoup de plaisir à la tête. Et aussi un peu de calories faciles à avaler pour le ventre. Et de l'eau aussi, parce qu'il y a majoritairement quand même de l'eau dans cette purée. Elle est très liquide par rapport à la purée Endure Active, qui elle est très 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 lourde, très très, elle est presque dure à mastiquer. Donc c'est vraiment deux usages différents. Montant vert, bah écoute, après il n'y a plus qu'à aller à plan l'aiguille. Enfin, de montant vert, vous montez encore au signal, donc là on ne pourra pas se ravitailler comme des cochons comme d'habitude, puisqu'on va encore faire 300 de dénif pour aller au signal, redescendre un peu. Alors je ne connais pas ce chemin, bon j'imagine qu'il est technique, hein, parce que au-dessus de montant vert, plan l'aiguille, enfin c'est pas mal de cailloux, et après on remonte encore un peu à plan l'aiguille, alors là pareil, bon là c'est la fin de course, on courra plus, mais c'est pas très raide. Et de plan l'aiguille, bah écoute, c'est très simple, il y a je crois 6 km, ouais 6 km pour descendre, voilà. À Cham, et là c'est le bonheur, c'est l'arrivée, c'est la commande à la pizzeria en passant avant de franchir la ligne, et 10 minutes après on est posé en terrasse. Ouais, 85 km, et je sais pas trop ce qu'ils ont branlé quand ils ont annoncé 6000 de dénive, mais moi j'ai 5005 hein, quand je regarde le parcours. Après j'ai mis le parcours dans la montre, donc on verra. Je pense que c'est mensonger, ces 6 000 de D+, un peu comme chaque année. L'organisation se tripote un peu, voilà, pour faire rêver les coureurs. Bon. À voir. Donc le parcours, je te l'ai mis en PDF, je t'ai mis aussi la carte, tu peux tout regarder pour te donner envie, pour si tu vas ravitailler un proche. Si tu cours, toi aussi, je crois qu'il y a Patrick Arcé, notre patriote qui est présent. Qui d'autre? Putain, je m'étais noté les noms quelque part. On a qui d'autre comme patriote? Alors après, j'anime à la Montagnarde, là il y en aura beaucoup. Mais... Ah oui, Marco et Edouard. Alors je ne les ai pas encore rencontrés. Mais ils sont présents aussi sur le 90. Alors les gars, je vais arriver un peu au dernier moment à Chamonix. Je vais prendre mon dossard rapidos. Puis après, je retourne me préparer. Et malheureusement, je ne pourrai pas trop non plus rester après la course. Donc il est très possible qu'on ne se voit pas. Puisque je dois animer à la Montagnarde. Le départ est à 5 h samedi matin. Donc la nuit sera courte. Le réveil sera très difficile. C'est déraisonnable, j'en conviens. Alors au niveau des favoris ITRA, eh bien cette année on a encore un très beau plateau. Donc quand on prend la liste d'inscrits, on voit qu'il y a Dimitri Mitiaev, qui est, je pense, il y a un trio qui se dégage. Donc Mitiaev, pour moi c'est pas l'énorme favori, il y a deux personnes à mettre un peu au piédestal. Mitiaev, il a déjà prouvé sur la TDS en faisant podium qu'il était très costaud, voilà, de 80 à 140 bornes, c'est vraiment son sujet, il s'éclate, le dénivelé, il adore ça, etc. Donc gros client. Mais face à lui, il y a Aurélien Dunant-Palace qui a à peu près les mêmes qualités que ce mec. Donc, il y aura un match entre ces deux personnes. Et l'arbitre, la troisième personne, sera sans doute Pablo Villa, qui est très fort à la Trans-Gran Canaria chaque année, qui a gagné la TDS, hein, lui aussi. Mais voilà, à mon avis, il est un peu plus coureur que marcheur, et à moins qu'il soit dans un état de forme exceptionnel. Tiens, d'ailleurs, ils ont... Ces abrutis ont échangé son prénom et son nom sur Live Try. Enfin, c'est pas leur faute, hein, c'est lui qui s'est mal inscrit. Quel trou de balle. Donc Pablo Villa, ouais. À mon avis, à moins d'être vraiment dans un gros jour de forme, il sera peut-être un cran en dessous de Mitiaev et Dunant, qui eux, par contre, sont vraiment des purs montagnards. Simon Dandréeux était dans la liste d'inscrits, mais il a déjà fait deuxième du Lavaredo, donc il ne viendra pas, hein, évidemment. Je pense qu'il s'était inscrit à toutes les courses, ne sachant pas lesquelles auraient lieu. Et donc il a sauté sur la première qui arrivait, celle du Lavaredo. Ou celle qu'offrait le plus de primes. Et là, bah, le Lavaredo gagne haut la main, hein, avec plus de 3 000 $ au vainqueur. Mais ça n'a été relaté dans aucun média. Donc je m'interroge un peu pourquoi cacher les primes dans le trail qui sont évidentes et pourtant marquées sur le site internet de la course. C'est dommage, encore une fois, d'occulter ce message fort qui est envoyé par le circuit Spartan qui injecte de l'argent, vraiment, là, les primes de course sont élevées, hein, sur le Lavaredo, c'est quasiment le double de la Trans-Gran Canaria en termes de primes de course, alors que le prix du dossard n'a pas augmenté. Donc là, bah, je dis bravo, voilà, ça c'est cohérent, ça c'est bien. Le coureur qui venait les années passées à la même prestation pour le même prix et les élites sont un peu plus récompensées. Donc voilà, une organisation qui s'en met un peu moins dans les poches et qui redistribue un peu l'argent. C'est très très bien, mais je pense que c'est ce qu'on va assister aussi dans un futur plus ou moins proche sur les courses UTMB Ironman, une fois que le discours aura pris, parce que bah, sinon Spartan va devenir un vrai concurrent. Bref, ça les regarde, c'est eux, voilà. Nous, on est contents d'avoir des belles rétributions, mais c'est pas non plus pour ça qu'on vient. J'en veux pour l'exemple Aurélien Dunant, qui en fait aurait très bien pu aller à ce Lavaredo Ultra Trail. Là-bas, il aurait pu sans doute faire un podium en faisant une course rondement menée, empocher pas mal d'argent, se placer pour le général du Spartan. Et empocher encore pas mal d'argent sur la finale des Spartans. Mais bon, il ne l'a pas fait parce qu'il voilà, il met l'accent sur le 90 du Mont-Blanc. Voilà. Mais attention, attention à ne pas avoir un train de retard pour nos organisations françaises. Ensuite, Franco Collet. Bon, lui, on ne sait jamais trop dans quelle forme il est. Alors, il peut être énorme comme il peut être. Comme il peut ne pas finir. Donc là, ben, je mets un énorme point d'interrogation. C'est le Joker. C'est la grosse cote. C'est qui tout double. Voilà. All-in. Gauthier Herriot. Alors, Gauthier, c'est un coureur qui maîtrise les trails de 50-60 bornes montagneux. Hein. Il a pas beaucoup d'adversaires en France. Il a fait deux podiums sur les championnats de France de trailon sur des profils de 50 à 60 bornes avec plus de 4000 de dénivelé. Voilà, il a gagné le tard, il a fait deuxième au tard derrière Nico Martin. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Les efforts de 6 heures en montagne, il connaît. Le problème, c'est qu'au 90 du Mont-Blanc, on va lui demander de courir quasiment le double, puisque je pense que ça va se gagner en une dizaine d'heures, cette affaire. Peut-être un poil moins, même. Ouais, je pense que ça va se gagner en moins de 10 heures. Allez, je dis 9h45, la gagne. Et donc, pour Gauthier, bah, va falloir qu'il dure 3-4 heures de plus. Et ça, c'est pas facile. Pour moi, c'est mon ressenti, hein, en regardant les autres coureurs et puis en voyant sur moi. Quand vous faites 3 heures d'effort, vous êtes sur une certaine philosophie. Quand vous faites 6 heures d'effort, vous êtes sur une autre philosophie. Et quand vous passez les 6 heures d'effort, là, franchement, ça devient what the fuck. Donc c'est très particulier. Je dirais qu'entre 8 et 15 heures d'effort, c'est très particulier. C'est différent d'un effort de 6 heures. Et après, vous avez les efforts de plus de 24 heures, donc là, on est encore sur un autre délire. Après, il y a Baptiste Chassagne. Alors, Baptiste, bon, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ait bien préparé ça, hein, puisqu'il évolue dans le Team Matrix, qui fait les choses bien pour leurs coureurs. Il a un bon coach et tout, donc ça va bien se passer pour Baptiste. Maintenant, bah, lui, c'est un peu comme Gauthier. Il va quand même découvrir un peu le format. Et par rapport à Gauthier, il va aussi beaucoup découvrir les montées raides et les descentes raides. Donc voilà, Baptiste, c'est la grosse cylindrée qui arrive dans les petits singles. Voilà, il va falloir faire attention, mais je pense à un garçon intelligent qui va bien mener sa barque et à mon avis, il a coché le top 5 dans un coin de sa tête. Après, on a Giulio Ornati. Le mec est toujours présent, d'année en année, top 10, voilà, il est régulier. Ça, c'est la valeur sûre. Si vous voulez miser sur un gars qui va faire top 10, voilà, il y a Giulio, répond toujours présent, bâche très rarement, il a très rarement des méformes, voilà, il est très linéaire comme athlète, j'aime beaucoup, très sympa aussi, très très sympa. Andy Simons, bon, lui, pareil, hein, ça peut être la grosse cote, Andy, hein, voilà, top 5 à l'UTMB 2018, 2019, je sais plus. 2018, ouais, puis je crois que c'était abandon en 2019, malheureusement. Andy, bah ouais, Andy, capable de tout. Le mec est capable de tout, il peut gagner un 15 bornes, il peut faire un top 5 à l'UTMB, montagneux, pas montagneux, voilà. Alors lui, je le mettrais... Ouais, je le mettrais quasiment dans la même catégorie que Pablo Villa, peut-être quand même un cran en dessous. Mais voilà, c'est plutôt le gars qui court vite, mais écoute, en montagne, ça marche aussi, le Andy Simons, donc ça va être un client. Mathieu Blanchard, j'ai pas trop compris, je pense pas qu'il viendra, parce que je l'ai vu sur le Trail Andorra 100, mais je l'ai pas vu dans les classements à l'arrivée, faut que je regarde. Donc je sais pas trop ce qu'il fait, je n'ai pas non plus suivi son actualité sur Facebook, donc je sais pas, je suis pas tout à fait certain qu'il soit au rendez-vous. Sinon Mathieu, ouais, costaud. Mathieu Delpeuch, donc Mathieu peut en cacher un autre. Très grosse forme de Mathieu, qui a gagné l'ultramontée du Salève en faisant un bon chrono et tout. Mais le problème, c'est qu'il s'est fait mal au genou, enfin, vilaine chute hein, pour Mathieu en vélo, voilà, c'est des choses qui arrivent, il y a un mois. Et du coup, il a pas pu faire les gros blocs de dénive qu'il faut faire à S-4, S-3. Donc Mathieu, si vous voulez, il arrive, il est pas trop rassuré, en plus c'est sa première expérience sur un 90 bornes, hein. Mathieu d'habitude il excelle sur les marathons, enfin les marathrails. Donc voilà, il arrive, voilà, il est un peu déçu, il aurait aimé faire une prépa aboutie et construite pour vivre une pleine expérience sur le 90, là il va être obligé de faire attention, de se freiner un peu dans les premières descentes. C'est quelqu'un de très intelligent Mathieu, très jeune aussi, moi j'ai envie de dire, ça peut être la belle surprise de la fin de course. Un peu comme Aubin avait fait en 2018 avec un départ, voilà, 20e, même 25e, je crois, à un moment donné. Et à partir de la mi-course, il a accéléré pour réintégrer aux deux tiers de la course le top 5. Donc voilà, Mathieu, je pense, ça va être la même philosophie. Walter Manser, bah écoute, je connais pas trop. Benoît Chauvet, je sais pas trop où il en est. Il a fait un petit trail de réglage il y a pas longtemps. Benoît, c'est pareil, c'est comme Andy Simons. C'est un gars qui peut aller très vite, et on l'a vu sur l'échappée belle l'an passé, bah, il a quand même tenu 125 bornes pour sa première expérience ultra. Donc lui aussi, il y a quelques points d'interrogation, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais ça peut jouer. Après, Martin Kern, ouais. Moi, je le mettrais bien pour un top 5 parce qu'il est solide. Il a déjà fait top 15 à l'UTMB. Il a fait un très 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 beau Swiss Canyon Trail très rapide. Alors par contre, attention Martin, il va quand même falloir changer de vitesse pour le 90 du Mont Blanc, c'est pas le même profil. Mais il arrive très en forme. Alors après, il était très en forme début juin. J'ai discuté un peu avec lui, et c'était un peu son interrogation, voilà, est-ce qu'il arrivera à être dans la même forme fin juin pour le 90 du Mont Blanc? Il n'en était pas sûr, bon, je pense quand même qu'une fois qu'on est en forme, ça disparaît pas comme ça, et moi je le vois bien réaliser une très très belle performance, Martin. Après, Jesus Gil Garcia, je connais pas trop, donc je peux pas trop en parler. Guillaume Boxis, alors lui, que dire, c'est comme Giulio Ornati, c'est la force basque, c'est le cuisseau pyrénéen, ça va au bout, ça. Ça, quoi qu'il arrive, ça va au bout. Donc lui, voilà, pareil, pour un top 10, misez Guillaume Boxis, hein, vous serez pas déçus, il répondra présent, normalement, il n'y aura pas de problème. Il avait abandonné l'UTMB en 2019, c'est vrai, ou en 2018, je sais plus, mais l'autre année, il avait fait un top 15, voilà, top 15 en 2019, il avait abandonné en 2018. Donc ouais, à mon avis, costaud. Voilà, il est déjà à Cham. Bon. Peter Restor, bah lui, c'est pareil, il a fait de la Varedo Trail. En plus, il a été très mauvais là-bas. Donc, je ne le verrai pas au départ, hein, sur le 90, ou alors il fera pas peur à grand monde. Christophe Périlla, alors lui, exceptionnel. C'est quand même l'entraîneur de l'équipe de France de ski de fond. Hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui, niveau sport, ça cause. Hein, voilà. Et je sais pas trop s'il aura eu bien le temps de se préparer. Je pense que oui, parce que les fondeurs... Alors, ils ont repris, là. Hein, ils sont à Tignes et ils s'entraînent taquet, ça y est. Mais voilà, avril, mai, surtout mai, ça devait être vraiment très calme. Début juin aussi. Donc, je pense qu'il a eu un peu plus de temps pour lui et qu'il s'est bien préparé. Et lui, vraiment, il kiffe. Vraiment, il kiffe la montagne. Donc, c'est son dada, hein, ça. Le 90 du Mont-Blanc, c'est taillé pour lui. Autant sur l'UTMB, la TDS, il s'est un peu pété les dents parce que je pense que c'est un peu trop long. Il n'a pas des dispos qui lui permettent de s'entraîner suffisamment, à mon avis, enfin de faire des longues marches. Mais sur un 98 Mont Blanc, là, il est costaud. Ouais. Puis, il parle pas trop. Hein. Il est gros, musculeux. Enfin, on le repère pas trop dans le peloton, mais il est. Voilà, c'est le montagnard bourru. Et vous inquiétez pas, il sera présent. Putain, ouais, c'est une belle start list quand même. Thibaut Marquet, bon, je connais pas trop, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mathieu Clément, pareil. Mattia Colella, Moises Jiménez, oh, lui, je sais plus quelle nationalité il est. Venezuela, je crois. Mais le mec vit à Annecy, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je crois qu'il parle pas français quand même, ce con-là, putain. Moïse, bah, c'était mon compagnon à l'échappée belle, puisqu'il m'a doublé au kilomètre 60. Malgré que ce soit un très bon descendeur, tu vois, j'étais quand même devant lui, donc finalement, je suis peut-être pas si nul que ça. Et puis Moises, après, je l'ai redoublé un peu avant Super Collet, et il a dû mal finir, parce que moi aussi, j'ai mal fini, et il m'a pas redoublé. Donc je finis 5 de l'échappée belle, et je crois que Sangue Sherpa est 6, et lui, il avait fini 7. Donc voilà, écoute, un gars costaud, un peu passe-partout, je pense qu'il va nous faire une belle course. Après, Hugo Ferrari, voilà, le duc en personne, c'est moi. Alors, cette course me convient beaucoup, hein, c'est un terrain que j'apprécie. Mais là, franchement, avec cet handicap de l'œil droit, je sors un peu la compétition de ma tête. Et voilà, je vais essayer de faire un chrono honorable, mais vraiment en descente, je vais essayer de pas me faire mal dans un premier temps. Guillaume Denneff, je connais pas. Frédéric Eliasson non plus. Yarno Le Gros. Alors lui, il est sympa. D'où il est déjà? Du sud. Attends, il est dans la Drôme. Je crois qu'il habite au nord de Valence. Je sais plus ce que c'est, le Patelin, Yarno. Yarno, il est costaud, Yarno. Il avait déjà fait top 15 sur cette course. Pourtant, c'est pas trop ce qu'il apprécie. La marche bâton en montagne, c'est pas son kiff ultime. Mais Yarno, il aime les gros événements. Il aime la concurrence, la compétition. Donc je pense qu'il vient encore une fois avec beaucoup de plaisir. Et il connaît la course, puisqu'il l'a déjà fait en 2019, hein, 12 ou 13e, donc voilà. Jérémy Marin, bah lui c'est pareil, hein, il avait dû échouer juste aux portes du top 10, l'échappée belle il avait fini 9e, voilà, hein, c'est le gars du coin, hein, il habite vers Salanche, il est à domicile, alors je l'ai pas revu, hein, avec ses épisodes Covid de merde là, évidemment on s'est pas vu le début de saison, c'est un collègue du team Altra, Jérémy, donc voilà, je pense qu'il va répondre présent, il n'y a pas de raison. Quentin Stéphan, bon alors lui pareil, on l'avait perdu de vue, puis bon, quand on aime la montagne, on y revient toujours, bah là il est encore une fois au départ. Quentin, bah, qui était costaud, hein, 2016, il avait fait 5e à la Maxi Race, voilà, donc bah écoute, s'il est revenu à son niveau, qu'il est entraîné et tout, bah c'est pareil, hein, il va jouer le top 20, si c'est une belle journée, le top 15, si vraiment ça, voilà, après il va encore être meilleur. Paul Itzaro Iratsoki. Qui, alors ça, je crois que c'est un jeune coureur assez prometteur, mais je ne connais pas trop son profil, j'aurais du mal à en parler, mais méfiat. Et on va finir avec Alvin Lair, qui est l'enfant de l'oisin, on va dire. Alvin, ouais, dans quelle forme se présente-t-il au départ? Je ne sais pas trop. Après, bah voilà, lui, c'est pareil, hein, il fait pas la tafiole, hein, même quand ça va pas, il met un point d'honneur à finir la course, donc voilà, il va encore une fois être là, un peu au contact, hein, je pense, pendant le début de course, puis après il va jauger de son état de forme pour voir comment il envisage la suite. Hein. L'an passé, il avait fait un joli Oisans Trail Tour qui faisait 80 km, puis il avait fait une autre longue course, voilà. Voilà. Jeune coureur également, Alvin, très sympa. Eh bien écoutez, on va se laisser ici, moi je finis mon sac et je go à Cham, et ben voilà, priez pour moi que je ne me tue pas dans la descente des Pauzettes, c'est très possible, voilà, c'est peut-être la dernière fois que tu m'entends. Voilà, je serai peut-être évacué en hélicoptère avec Michel Lann, ça bouclera la boucle, et puis on se dit rendez-vous lundi pour une revue de presse titanesque, énorme, monstrueuse comme la semaine dernière, des gros 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 résultats, puisque je rappelle que dimanche ce sera Golden Trail Series sur le Maratrail, sur le marathon du Mont-Blanc. Il y a aussi un trail dans les Bauges, il y a aussi la Montagnarde, il y a aussi Verbier-Saint-Bernard. Bref, ce week-end, c'est encore une fois la folie. C'est reparti pour un été de dingue. Suivez bien mon agenda, que ce soit en tant que speaker ou en tant que coureur. J'ai placé une petite course des boots pour me préparer vraiment à l'UTMB. Et surtout, amis patriotes, bah écoutez, je ne l'ai pas annoncé sur le podcast du jour, mais je vous réserve une très très belle surprise pour l'UTMB. Allez, je vous laisse, il est temps de finir la valise et de se barrer direction Cham. Salut.